Vincent.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour, bienvenue les voisins, les voisines, ravis d'être avec vous aujourd'hui. On est foutus, on consomme trop, on dépense, on accumule sans jamais se demander ce que ces objets supplémentaires nous apportent réellement. Sans parler des impacts sur notre planète, épuisement des ressources, pollution, réchauffement climatique. Alors est-ce que cela annonce la fin de la société de consommation? On parle de plus en plus du faire soi-même, de frugalité, de minimalisme. Les aspirations se déportent de l'avoir pour se concentrer vers l'être. Mais notre société tourne-t-elle vraiment le dos à la consommation? Quel est le pouvoir du consommateur pour transformer les choses? Comment consommer plus responsable? Consommer moins, mais consommer mieux? Et est-ce une éthique de bobo? C'est la réalité, car beaucoup n'arrivent tout de même pas à joindre les deux bouts. On en parle donc aujourd'hui à l'occasion de la sortie d'un livre « J'arrête de surconsommer ». C'est sorti chez Erol, 21 jours pour sauver la planète. Et elles se sont mises à deux pour écrire ce livre qui vous prend par la main donc pour sortir petit à petit du système de surconsommation. Herveline Verbeken est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes co-auteur de ce livre et vous avez également un blog qui s'appelle « Sortez de vos connaps ». C'est bien énigmatique comme titre.
Tout à fait, c'est issu d'une BD en fait. Jodorowsky et Moebius, la saga Jeune Difool en fait, et où les gens sont effectivement pris dans une société de surconsommation, où ils sont dans leur tout petit appartement, ça s'appelle des connaps, et où ils ont juste la place de mettre un canapé, une télé, et où ils connaissent plus du tout le monde extérieur. Et donc le héros prend l'antenne et leur dit « Affrontez le monde, sortez dans la rue, la révolution est dans la rue, sortez de vos connaps ».
D'où donc l'idée de ce blog, beaucoup d'expériences personnelles dans ce livre, vous allez nous raconter, nous prendre par la main donc pour consommer moins et mieux. Et vous l'avez fait avec Marie Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Alors vous habitez à Nantes, donc vous êtes en direct de France Bleu Nantes. On remercie les équipes de vous accueillir. Alors en plus du livre, vous êtes aussi auteur du blog La Salade à Tout. Alors qu'est-ce que vous mettez dans votre salade, Marie?
Je mets plein de choses justement, c'est pour ça que c'est La Salade à Tout. J'y aborde différents thèmes autour de la surconsommation, de l'écologie, toujours dans le cadre du quotidien, du végétarisme, de la parentalité, etc. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu une salade à tout, une salade à plein de choses.
Donc vous raconterez tout au long de l'émission comment vous allez nous guider pour aller vers une vie plus saine. Et de retour à Paris, mon troisième invité, c'est Pascal Grébeauval. Bonjour.
Bonjour Sandrine.
Rédacteur en chef de Kaizen. Alors on en est encore dans l'explication des mots. Kaizen, Kezako.
Kaizen, c'est un mot japonais, pardon, et qui veut dire Kai, changement, Zen, bon. Et derrière le mot, c'est une philosophie qui dit que chaque être humain ne peut pas changer du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il faut faire les choses pas à pas. Parce que si on fait les choses trop vite, ça crée des peurs, des tensions, et finalement, on arrête de se mettre en marche. Et donc l'idée du magazine, c'est de montrer des initiatives qu'on peut reproduire quotidien, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, avec son entourage familial ou professionnel. Comme je viens de le dire, l'idée c'est de mettre en marche, se mettre en marche.
Et une nouvelle collection aussi avec Actes Sud, pour changer aussi sa manière de consommer, ça s'appelle Je passe à l'acte. Et le dernier hors-série, Comment devenir autonome, il y a 100 idées à faire soi-même pour jardiner, décorer, cuisiner, faire ses cosmétiques. Alors les voisins, les voisines, si vous êtes du genre à accumuler ou à sauter sur les promos 3 pour le prix de 2, à acheter toutes les dernières nouveautés, ou au contraire, si vous êtes dans un mouvement de plus en plus sobre et que ça vous rend heureux. On attend vos témoignages, vos questions au 33 1 84 22 71 71 et sur nos réseaux sociaux. Alors déjà de nombreux messages sur Facebook, la surconsommation, nous dit Diaby à Bamako, il ne se sent pas du tout concerné, elle concerne les blancs car nous ne mangeons par exemple qu'une seule fois par jour. Il y a Ibrahim à Abidjan, dans cette grande ville, il nous dit à peu près le contraire, il dit que lui dès qu'il a une entrée conséquente d'argent, il se lance dans les supermarchés pour acheter tout ce qui n'était pas prévu, donc il avoue être un acheteur compulsif. Rachel à Chennai en Inde, elle pointe la cause de l'irresponsabilité, de l'inconscience des gens qui gaspillent l'argent, la nourriture, les ressources naturelles. Et elle voit que ça se développe encore plus avec les nouvelles technologies, avec l'achat en ligne par exemple, qui permet de proliférer justement ce phénomène. J'ai envie de donner aussi l'avis de l'Asana de Bamako qui met un bémol quand même en disant que plus de la moitié de la population mondiale vit dans la misère et ne mange pas à sa faim. Alors comment peut-on parler de surconsommation? Continuez d'échanger sur Facebook, les voisins, les voisines, ou appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. N'attendez pas la fin de l'émission.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Le patron du développement durable d'IKEA, cette firme d'ameublement suédoise qu'on trouve partout dans le monde maintenant, a fait sensation l'année dernière. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, il a lancé dans une conférence que le monde était arrivé à son pic d'objets, en référence au pic du pétrole. Donc nous serions donc arrivés au moment fatidique où le nombre d'objets que nous avons déjà consommés est supérieur à celui qui nous reste en stock. Donc ça y est, on amorce une déconsommation, même les grands patrons, je dirais, sont en train de le dire. Donc c'est complètement inédit, non, dans l'histoire des choses, Pascal Grébeauval?
C'est assez inédit, mais je ne sais pas si ce monsieur voyage ou écoute RFI, mais je trouve que les messages que vous avez évoqués précédemment sont assez révélateurs. On a toujours un peu le chiffre facile de 20% des blancs qui consomment 80% de la planète, alors que 80% des gens dans le monde n'ont que 20% pour se nourrir tous les jours. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper de message aujourd'hui sur RFI. Ce monsieur, ce patron d'IKEA, devrait un peu voyager et voir comment se fait la répartition dans le monde. Alors, je ne sais pas si on arrivait à un pic d'objets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la répartition dans le monde est mal faite. Et c'est, je pense, notre propos aujourd'hui, c'est voir comment nous, on peut amorcer, on va dire, une décroissance, même si le mot fait sauter certains, en tout cas réduire notre consommation pour que d'autres en jouissent pleinement. Et avec autant de goût que nous avons pu le faire ces dernières années.
Alors, est-ce qu'on vit vraiment dans une société de surconsommation, Herveline Verbeken?
Alors, sûrement pas dans tous les endroits de la planète, mais en tout cas, en France, je pense que oui.
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
L'expérience qu'on a, nous, avec Marie, sur l'aide qu'on apporte tous les jours aux gens, on se rend bien compte que dans quasiment tous les milieux sociaux, les gens n'ont pas conscience d'être dans cette société de surconsommation. Mais nous, si on arrive à les faire avancer, c'est bien qu'il y avait un point de départ de surconsommation.
Alors Marie Lefebvre, qu'est-ce qui nous pousse alors à acheter, à accumuler?
Je pense qu'il y a énormément de choses qui nous poussent, que justement tout est fait pour nous pousser. On est envahi de publicité, on est envahi de sollicitations par tous les moyens, dans nos boîtes aux lettres, à la télé, à la radio. Voilà, on est tout est fait aujourd'hui au niveau du marketing pour nous donner toujours envie d'acheter, toujours envie d'acheter plus, et même souvent au-delà de nos moyens. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous sommes tentés de surconsommer.
C'est tout de même la base du système capitaliste, si je me souviens bien de mes souvenirs de cours d'économie. Non, c'est l'accumulation des richesses, c'était signe de bonheur, de prospérité.
Juste pour répondre à la question précédente et pour compléter la réponse de Marie, je pense qu'on est aussi dans un système où notre société fait croire aux gens qu'on manque de temps. Et que le manque de temps détruit le lien social. Et que cette perte du lien social nous fait consommer pour compenser la perte de lien social. Et je pense que tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut prendre du temps pour être en harmonie avec soi-même, on continuera de consommer. Et je pense que le moteur, c'est ce que dit Pierre Rabhi, pas de changement de société sans changement personnel.
Donc vous voulez dire que parce que, par exemple, on travaille de plus en plus pour gagner de plus en plus d'argent, mais que ce travail peut-être crée de la frustration parce qu'il n'a pas vraiment de sens, ça nous pousse aussi à consommer.
Je pense que c'est certain, oui. Je pense que tant qu'on ne sera pas en paix et au clair avec soi-même, avec cette dynamique de consommation et de croissance, nous serons toujours dans cette course effrénée dans un cercle vicieux de travailler pour produire des choses qui ne nous servent à rien, pour gagner de l'argent, pour acheter des choses qui ne nous servent à rien, mais pas être dans le lien social. Il suffit de voir, c'est tout simple, vous pouvez le faire à Paris, et Sandrine, je ne sais pas si vous le faites avec vos enfants, mais vous prenez une petite graine, vous la plantez dans un bac, vous faites pousser, c'est une tomate qui sort. Et vous voyez le lien que ça instaure avec vos enfants, avec vos voisins. Et tout de suite, ça change la relation, plutôt que d'aller dans un supermarché acheter une barquette qui vient d'Argentine à cette époque de l'année.
Alors les conséquences quand même de ce cercle de la consommation, Herveline Verbeken, sur les forêts, l'exploitation de la terre, qu'est-ce que ça donne?
Bah, En fait, moi, j'ai plus l'image, quand on parle de surconsommation, en ce moment-là, j'ai plus l'image du 7e continent, en fait. Du 7e continent, enfin, la mer de plastique, quoi. Parce que je trouve ça extrêmement représentatif de notre surconsommation. Parce que de cette surconsommation un petit peu inconsciente. C'est-à-dire que les gens, ils ont l'impression que s'ils mettent leurs déchets dans la bonne poubelle, dans les poubelles, s'ils ne les jettent pas dans la nature, ils ne participent pas à cette destruction des océans. Alors qu'en réalité, ils financent l'industrie du plastique, le besoin du plastique, on alimente cette énorme, cette énorme usine. Et voilà, on se retrouve avec un problème complètement insoluble qui n'est pas, qui ne touche pas notre quotidien à nous, mais qui impacte pour autant toute la planète.
Tous les impacts sur la planète, Marie Lefebvre, vous les avez aussi listés, effectivement, sur les forêts, sur les ressources de la Terre. La Terre n'est pas illimitée, c'est cette conscience qui nous manque un peu, comme des clics.
Oui, tout à fait. Comme disait Herveline, ce qu'il y a, c'est que chaque personne, maintenant, chaque famille est axée dans son quotidien, sa petite vie, à lui, etc. et ne voit pas, en fait, les conséquences. C'est-à-dire que la déforestation, de Nantes, là où je vous parle, on la voit pas. C'est bien ça le problème, c'est réussir à reconnecter les gens, à les sortir un petit peu de leur train-train quotidien pour leur faire ouvrir les yeux sur les conséquences au niveau mondial.
Et alors, vous faire ouvrir les yeux, donc c'est effectivement le but de votre livre, hein, puisqu'en 21 jours, c'est un peu l'idée, hein, pour sauver la planète. Donc chaque jour, on avance pas à pas aussi pour essayer de prendre conscience de comment on consomme et comment on peut changer notre quotidien. Et alors, ces personnes donc, qui s'interrogent sur leur consommation, vous les appelez des licornes. Ça vient d'où, Marie Lefebvre?
Ça vient d'où? Alors, quand on a créé notre groupe Facebook, en fait, Gestion budgétaire, entraide et minimalisme, en octobre 2015 avec Herveline, en fait, on a fait ça rapidement. Herveline a mis la première photo qui lui tombait sous la main pour faire la bannière du groupe. Il se trouve que c'était une photo d'un espèce de petit poney de sa fille. Une licorne, voilà. Et puis on s'est dit, on la changera plus tard, on mettra quelque chose de plus sérieux, on mettra, je ne sais pas, une tirelire, une forêt, quelque chose de plus en lien avec notre thème. Et quand on a voulu faire ça, en fait, quelques jours plus tard, ce n'était plus du tout possible puisque les membres, en fait, qui étaient là à ce moment-là, avaient adoré cette licorne, s'étaient autoproclamés licorne eux-mêmes. Et c'est parti de ça. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé vous dire qu'il y avait un aspect symbolique, quelque chose de très profond, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas, en fait, c'est un quiproquo. Voilà, et c'est comme ça que nos membres, maintenant, se sont surnommés les licornes.
Et donc, ce sont des personnes qui réfléchissent à leur manière de consommer, à réduire leur impact aussi sur la planète. Et je crois que c'est le cas d'Amadou aussi. Alors, on peut peut-être l'appeler licorne. Il nous appelle de Conakry. Bonjour, Amadou.
Oui, bonjour Sandrine et bonjour à tous les fidèles auditeurs de 7 milliards de voisins.
Alors merci de témoigner sur l'antenne de RFI. Alors vous êtes un consommateur responsable, dites-nous tout.
En fait, je suis un consommateur responsable parce que là, j'essaie de veiller sur ma santé. Je suppose que vouloir surconsommer, ça affecte notre santé. Il faut qu'il y ait une consommation normale pour ne pas qu'on essaie de dégrader la santé. Quand on voit aujourd'hui, il y a tellement de produits, il y a tellement de choses préparées et si on, par la beauté ou par les belles phases qu'on nous présente de ces produits, si nous disons que nous allons tout consommer, et là on risque d'affecter notre santé. C'est pour ça que j'essaie toujours de mesurer et d'ailleurs d'accepter de consommer ce que je gagne à la maison ou de ce que je gagnerais sur la rue, d'acheter ailleurs, je viens, je prépare moi-même. Mmh. Et l'autre aspect, pourquoi je préfère à ne pas se consommer, parce que je n'aime pas trop ce qu'on revend dans la rue. Parce que là, je ne sais pas comment ces gens ont préparé leurs produits ou leurs c'est des plats, je ne sais pas comment ils ont préparé. Il y a de la propriété dedans, que je vais trop sur ma santé, en fait.
Alors, merci beaucoup, Amadou, pour votre témoignage. Ce que je comprends, ce que j'entends, en tout cas, c'est que vous n'aimez pas acheter tout préparé. Vous préférez faire vous-même, préparer la cuisine, vous achetez vous-même vos produits. Comme ça, vous savez d'où ça vient et vous avez le plaisir aussi de le préparer. Alors ça fait partie, effectivement, de cette manière d'être, de devenir autonome. C'est le dernier hors-série Kaizen, sans recette à faire soi-même. Et cuisiner, ça fait vraiment partie de ce plaisir de se réapproprier aussi ce qu'on mange et de se faire du bien.
Oui, cuisiner, mais aussi faire ses cosmétiques, puisque comme l'a dit Amadou, les perturbateurs endocriniens ont quand même des inconvénients majeurs sur la santé. Et aujourd'hui, avec des produits assez simples et peu chers, et je le précise, qui prennent peu de temps. On peut faire des produits cosmétiques ultra simples et je suis le seul garçon, donc je vais le dire, mais depuis 5 ans, je fais ma barbe à raser tout seul et je sais ce que je mets, ça ne me coûte pas grand-chose et c'est bon pour ma peau en fait.
Et vous la faites avec quoi?
Et bah, y a toutes les recettes, il y a 5 recettes différentes, donc on peut choisir celle qu'on préfère, mais je sais qu'on s'est réunis avec 4-5 copains et on s'est pris un samedi matin, on a fait un tas de recettes cosmétiques et pour les hommes et pour les filles, donc on a passé un bon moment ensemble. Et on a pris soin de notre santé. Donc je pense que Amadou a raison. Il faut faire attention à ce qu'on consomme aussi.
Herveline.
Tout à fait. Vous
faites aussi vos cosmétiques?
Tout à fait. Déodorant.
Livrez-nous une petite recette.
Je crois que la recette du déodorant est dans le livre. C'est très très simple. Alors nous, moi je la fais à base d'huile de coco, amidon. C'est de la maïzena, il y a un peu de bicarbonate et je mets un petit peu d'huile essentielle. Voilà, ça me prend 5 minutes à tout casser.
Mais vous le préparez tous les matins ou...
Absolument pas. Je le prépare peut-être, je sais pas, une fois par mois et de toute façon après c'est vraiment une toute petite quantité. Voilà, et c'est le déo le plus efficace que j'ai jamais testé.
Bon, ben merci pour m'avoir livré ces recettes. Alors, c'est vrai que vous les partagez. Hein, de toute façon, dans J'arrête de surconsommer qui sort chez Erol, c'est vraiment le but du jeu. Hein. Vous vous mettez beaucoup en scène, entre parenthèses. Oui. Vous racontez vraiment votre quotidien. Alors là, vous avez donné votre truc pour le déodorant. Mais ce qu'on sent bien, Marie Lefebvre, c'est qu'à travers ce livre, vous voulez continuer de vivre dans cette société. Je dirais, vous ne la rejetez pas en bloc. C'est pas le propos. Hein.
Alors pas du tout, justement le message qu'on a envie de faire passer c'est que chacun peut faire quelque chose à son niveau, de là où il en est et qu'il n'est pas question de partir vivre dans une yourte, dans la forêt sans eau, sans électricité ou quoi que ce soit, que chacun d'entre nous, de sa place peut faire quelque chose.
Ça, c'est vraiment le message. Parce que pourtant, on entend beaucoup de défaitistes qui disent « Mais à quoi ça sert si moi, je ne trie pas vraiment mes déchets ?» Ou « à quoi ça sert ?» Parce que de toute façon, après, ça va tout dans la même usine ou mon voisin ne le fait pas. Donc, à quoi ça sert, Pascal Crébeauval?
À quoi ça sert? Ça sert à changer l'état de la planète. Parce que je ne sais pas si vous avez lu hier le rapport de l'ONU qui est tombé. En fait, ils annoncent des records de température pour l'année 2016 et 2017 qui, là, vont concrètement impacter la société. Donc, pour venir deux questions en avant... L'impact sur la société, on la connaît, c'est que c'est nos auditeurs à travers le monde qui vont être les plus impactés, puisqu'on envisage à peu près 1 milliard de gens qui vont être obligés de quitter leur pays, et ce milliard, il va bien falloir qu'ils aillent quelque part, et vont venir, a priori, en Europe, puisque c'est là où on va être le moins impacté. Donc ça va changer ça. Aujourd'hui, on ne s'est déjà pas traité 200 000 Syriens qui quittent leur pays, donc comment on va faire avec 1 milliard de déportés à travers le monde? Donc ça va changer ça. Si aujourd'hui, on ne se met pas en marche, demain, c'est pas ce qui se passe, en fait. On va dans le mur. Donc ça, c'est la première chose, c'est se rappeler quand même qu'il y a une urgence. Après, sans tomber dans le défaitisme, on peut tous faire quelque chose. Et je suis d'accord avec Marine et Herveline, on peut tous faire quelque chose là où on en est, en fait. Il n'y a pas d'un côté les bons et les mauvais citoyens. Chacun peut faire quelque chose. Ça peut être ne serait-ce qu'aller à son job en vélo, faire son pain le matin. Il y a plein de choses à faire. Enfin, je pense que le livre et Kaizen sont là pour ça. Il y a des tonnes de choses à faire simplement et qui ne coûtent pas cher.
Alors, vous restez avec nous parce que vous nous donnerez cette légende du colibri. On l'écoutera après le flash.
J'ai cette mission.
Voilà, la légende du colibri. Restez avec nous à l'écoute. Avoir moins, mais mieux. Et si l'avenir de la consommation ne passait plus par l'avoir, mais par le faire, par l'être, c'est un peu le sujet de l'émission. Pensez-vous que le pouvoir est aussi du côté du consommateur? Et vous, les voisins, les voisines, pourriez-vous arrêter d'acheter, par exemple, des produits superflus pendant 1 an? Est-ce que vous avez déjà fait le test? On attend vos messages au 33 1 84 22 71 71. Et sur Facebook, on attend vos commentaires. On se retrouve dans 3 minutes après le flash avec J'arrête de surconsommer chez Erol, donc 21 jours pour sauver la planète. Nous sommes avec Herveline Verbeken, auteur du blog aussi Sortez de vos connaps, et Marie Lefebvre depuis Nantes, auteur du blog La Salade à tout, et Pascal Grébeauval, rédacteur en chef de Kaizen. Ne bougez pas, on se retrouve dans 3 petites minutes après le flash.
D'Europe. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue à vous les voisins, les voisines, vous qui nous rejoignez, excités par la publicité, tiraillés par nos frustrations, nous sommes atteints de boulimie de consommation. Il faut acheter, pour acheter il faut de l'argent et donc il faut travailler, même sans beaucoup de sens, ce qui entraîne de la frustration qui nous pousse à acheter. Voilà, c'est le cercle infernal, on achète de tout, tout le temps et n'importe comment, mais est-ce qu'on peut s'épanouir avec le matériel? Est-ce possible de sortir de la société de surconsommation aujourd'hui? Comment mieux consommer, consommer moins et mieux, et quels sont les bonheurs qui ne coûtent rien? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 ou échangez, laissez vos messages sur Facebook. Nos invités sont là pour vous aider à consommer mieux, durablement, en tout cas avec ce livre « J'arrête de surconsommer » chez Erol, 21 jours pour sauver la planète. En studio avec nous à Paris, il y a Herveline Verbeken. Sortez de vos connapes, ça c'est le nom de votre blog, et Marie Lefebvre en direct depuis France Bleu Nantes, auteur du blog La Salade à tout, et Pascal Gréboval, rédacteur en chef de Kaizen, donc ce magazine qui sort six fois tous les deux mois. Hein. Le numéro actuel, c'est sur autour de la démocratie, justement aux armes citoyens, c'était voilà le lapsus, il est fait, aux actes citoyens, avec ces périodes d'élection dans lesquelles nous nous trouvons, et ce hors-série Comment devenir autonome, avec 100 idées à faire soi-même pour jardiner, décorer, cuisiner, faire ses cosmétiques. C'est vrai qu'on est en plein dedans. Le faire soi-même, c'est vraiment une manière de sortir de cette société de surconsommation, Herveline.
Oui, tout à fait. C'est aussi une manière de se reconnecter avec ses propres besoins, parce que si on essaye de faire soi-même autant d'objets qu'on consomme dans notre vie d'avant, effectivement, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps pour rien. Et donc, nous, ce qu'on dit souvent avec Marie, c'est que la clé, c'est vraiment de simplifier son quotidien, remettre en question toutes les habitudes que la société nous a transmises. Et du coup, en arrivant à simplifier notre rapport avec nous-mêmes, eh ben on arrive à aboutir à quelques produits essentiels qu'on fait, et du coup, ben, ça se passe toute seule.
On va peut-être d'abord, pour bien comprendre la société dans laquelle nous vivons, quand même, ces objets, jusqu'à présent, l'importance du matériel, les objets donnaient, en tout cas donnent toujours, un statut pour celui qui les possède. Pascal Gréboval.
Oui, l'exemple de la voiture est, je pense, le meilleur exemple, puisqu'on est dans l'ego mobile avec l'automobile, en fait. Plus on a une grosse voiture, plus on a l'impression d'être important dans la société. Donc, vous avez raison. L'objet donne une espèce de stature. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, je ne veux pas tourner en boucle là-dessus. C'est que tant qu'on n'est pas en paix, en harmonie avec soi-même, on a besoin d'objets pour valoriser son petit ego. Alors que si on est en paix avec soi-même, on sait ce qu'on est, on sait le rapport qu'on a à l'autre. Et je pense que là, on n'a plus besoin d'une énorme voiture ou d'un énorme télé d'un mètre de diagonale chez soi pour vivre. C'est le plus important. Après, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure en introduction, c'est de passer d'une relation de l'avoir à une relation de l'être. Et la consommation vient compenser ce manque d'être.
Alors c'est vrai que les objets sont des marqueurs sociaux qui évoluent aussi. Vous parliez de la voiture, Pascal. Justement, j'avais vu un film il n'y a pas longtemps qui expliquait le rapport à la voiture, où dans les années 60, le patron va à l'usine en voiture et les ouvriers à vélo. Et qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Le patron va au boulot à vélo et les ouvriers en voiture. Marie Lefebvre, qu'est-ce que ça nous dit sur notre société ?
Je pense que ça, ce que ça m'inspire, c'est que on pourrait penser que cette démarche de décroissance et cette démarche écologique au quotidien est une démarche de bobos, c'est-à-dire de personnes finalement qui ont beaucoup de moyens et qui, pour se donner bonne conscience, vont se mettre à déconsommer. En réalité, nous, ce qu'on dit toujours, c'est que quels que soient ces moyens, même les tout petits, il y a des gens qui sont forcés au minimalisme par manque de moyens. Et il y a des gens qui se mettent dans le minimalisme par conviction. Mais voilà, peu importe, on peut tous faire quelque chose, quel que soit notre niveau social.
Mmh. Et alors vous êtes deux mamans, Herveline et Marie. Bon, vous avez la trentaine, vous avez été pris aussi dans ce tourbillon de la vie moderne. Comment est-ce que vous avez pris conscience de votre surconsommation, Herveline ?
Je saurais pas trop quoi vous dire. J'ai pas eu vraiment de déclic. Ça a été un petit peu, c'est des graines qui ont été semées dans mon adolescence, qui ont fini par germer, en tout cas. Mais vraiment, je pense que c'est en 2012, quand il y a eu quand le réchauffement climatique est venu vraiment, vraiment sur le devant de la scène. Moi, j'avais déjà mes enfants j'ai eu un énorme choc. En fait, j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse d'ailleurs à ce moment-là, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'ai jeté mes enfants dans un monde où leur avenir n'est pas garanti, quoi. Donc, j'ai voulu faire quelque chose. Et c'est quand j'ai commencé à faire que je me suis rendu compte de la montagne de ce que j'avais à faire, finalement. Mmh. Alors après, on y a été à notre rythme. Hein. On s'est engagé avec Alternativa, etc. Mais voilà, c'était un peu ça, en fait. C'était un petit peu un choc.
Et vous, Marie Lefebvre, il y a eu un déclic dans cette prise de conscience?
Il y a eu un déclic, oui, il y a eu un début. Je dirais que moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu mon fils, il a 9 ans aujourd'hui, il y a eu toute cette histoire autour du bisphénol, vous savez, pour fabriquer les biberons, etc. C'était en plein dans cette histoire-là. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur des alternatives plus naturelles. Je voulais donner des choses plus naturelles à mon bébé, pour sa santé, pour nous. Au début, voilà, c'était une démarche qui était plutôt tournée autour de la santé. Et puis finalement, à force de me renseigner de droite et de gauche, d'aller sur différents forums, différents sites, etc., j'ai vu que la problématique s'est élargie. Et puis voilà, le chemin a commencé à ce moment-là et il n'est pas terminé.
Alors on vous appelle, bon, vous dites les licornes, hein, entre vous, avec votre groupe Facebook, donc tous ces gens qui sont engagés dans cette démarche de vivre mieux avec moi. C'est donc cette nouvelle éthique de vie. On les baptise aussi quoi, les décroissants. Qu'est-ce qu'on dit? Comment vous vous appelez, Pascal Grébeauval?
Des colibris?
Alors, les colibris.
Colibris, ouais. C'est une bonne idée. Je pense oui, effectivement, il faudrait nommer les choses, mais je pense que décroissant a une connotation vraiment péjorative. On le voit dans les gens qui ne sont pas encore sensibles à cette démarche. Donc, je pense que le mot décroissant est vraiment à ne pas utiliser, en fait. Surtout que je vais énoncer un point qui est important, on ne l'a pas encore dit, c'est que les gens doivent se faire plaisir. Aujourd'hui, il faut arrêter la culpabilité. Il faut dire il faut arrêter d'être dans ce discours culpabilisant. Il faut justement que les gens se fassent plaisir. Si les gens peuvent demain passer à l'acte, c'est parce qu'ils vont trouver un endroit où ils peuvent se faire plaisir, pardon. Si quelqu'un a envie de faire du pain, il faut qu'il le fasse. Si quelqu'un a envie d'avoir un poulailler collectif, il faut qu'il le fasse. S'il a envie d'aller bosser au vélo, comme vous, Sandrine, il faut qu'il le fasse. En tout cas, il ne faut pas dire aux gens « Ah, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas tuer la planète ». Ça, ça ne marche plus. On le sait aujourd'hui. Les scientifiques, justement, ont publié un article dans Le Monde la semaine dernière. On sait que ça ne marche pas pour les neurosciences. Oui. Ça ne marche pas. Donc arrêtons ça. Trouvons en revanche un discours positif. C'est pour ça qu'on a pris cette ligne éditoriale dans Kaizen, pour que les gens se fassent plaisir. Après, ça ne répond pas à votre question. Comment on s'appelle? J'ai envie de dire colibri, ça me va bien la colibri.
Alors racontez-nous la légende du colibri, ce petit oiseau. Mais en quoi il est un
Pierre
symbole
Rabhi. Je ne suis pas Pierre Rabhi. Alors la légende du colibri, c'est la légende amérindienne qui dit que dans la forêt d'Amazonie, il y avait le feu et tous les animaux s'enfuyaient, sauf un petit colibri, tout petit rikiki le colibri. Il allait piocher une goutte d'eau dans le fleuve et il allait la mettre autour du feu. Et il faisait des allers-retours comme ça. Et il y a le jaguar qui vient le voir, qui dit mais t'es ridicule colibri, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas éteindre le feu. Et le colibri lui répond, je fais ma part.
Donc l'idée, c'est que chacun, effectivement, peut faire sa part pour éteindre l'incendie.
Oui, pour éteindre l'incendie, pour préserver cette beauté. Ce que vous avez posé la question aux filles, moi, ce qui m'a mobilisé, c'est qu'en 2001, j'ai eu la chance, je dis bien la chance, de faire un tour du monde. Donc ça a parlé aux gens de RFI. Et là, je me suis aperçu que la beauté de la planète était vraiment menacée. Il suffit de voyager et de prendre le temps, surtout de discuter avec les gens, pour voir que c'est menacé. Et on n'en parle pas non plus assez, c'est cette notion de beauté. On a de la chance de vivre avec un espace assez réduit, entre 50 et 80 ans pour les moyennes dans le monde, mais on a un univers qui est vraiment magnifique. Préservons-la, c'est ça le message que j'ai envie de faire passer ce matin. Gardons la beauté du monde.
Mais est-ce qu'il est possible de chiffrer l'ampleur de ce phénomène, de cette vague? J'ai vu par exemple qu'aux États-Unis, environ 20% quand même de la population aurait déjà modifié profondément leur manière de vivre. Herveline,
j'ai aucune idée des chiffres. Mais
en fait, pour soulager Herveline, j'ai révisé ce matin.
Ah, vous avez révisé.
Ouais, j'ai révisé. Donc, pour ceux qui connaissent les APAP, donc une sorte d'association où on se met en lien avec un agriculteur, on achète à l'année des paniers bio, généralement des fruits et légumes. Donc ce concept vient du Japon, on ne le sait peut-être pas assez, comme Kaizen d'ailleurs. Donc ça a été mis en place en 1960, et on sait aujourd'hui que 40 ans après, ça impacte une famille sur quatre. C'est-à-dire que près de 16 millions de Japonais consomment via des AMAP. Donc on voit que...
Ils évitent le supermarché, voilà. Pour expliquer, et ils ont commandé, on dirait, par avance. Ils savent ce que l'agriculteur va lui proposer chaque semaine dans son panier, sans choisir forcément ce qu'il y a à manger. Donc forcément, les produits du moment...
Voilà, donc on voit que déjà 16 millions, c'est pas rien en fait. Une famille sur 4, c'est énorme en Japon. Donc si chacun fait sa part, justement, aujourd'hui, ça peut aller très vite. L'idée, c'est d'atteindre une masse critique très rapidement, et il suffit pas de 10 personnes pour changer le monde. On peut être 15, ça suffit en fait.
Mais alors, qui sont ces gens qui veulent passer à l'acte? Est-ce qu'il y a un profil type?
Non, alors, pas du tout. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, nous, à la base, on a ouvert un groupe de gestion budgétaire parce qu'on trouvait que ça manquait une gestion budgétaire un petit peu durable. Voilà. Donc, on a, à la base, ouvert un groupe de gestion budgétaire. Voilà.
Donc, gestion budgétaire, c'est pour savoir comment on gère son budget dans le mois.
Tout
c'est
à
ça.
Fait. Et en fait, mais toujours orienté par l'écologie et par le minimalisme et par l'éthique et remettre l'autre au sens du dispositif, etc., dans la bienveillance. Et donc, nous, en fait, les gens arrivent parce qu'il y a gestion budgétaire. Donc, ils pensent qu'ils vont arriver en trouvant des promos, etc., pour pouvoir consommer plus avec moins d'argent. Et donc, nous, on se débrouille pour qu'il n'y ait que les alternatives positives et les alternatives durables. Donc, non, il n'y a aucun profil, en fait. Les gens se prennent au jeu parce qu'ils découvrent aussi que finalement, ça leur change leur vie, en fait.
Alors comment agir concrètement dans son quotidien pour consommer moins? On va continuer après Esther Rada qui chante It's on You.
Single your confusion, great brave woman, laughing to illusion. You're not afraid to die, you know dying is alone. Down a rock you're still alone, laughing or crying you roll alone. You are telling me, you tell me. He said to be polite, the only way to get what you want, the only way they like you, is to stay in line and follow the crowd. But you stand out black as the night. You know they all lie.
Consommer durablement, les voisins, les voisines, j'arrête de surconsommer. C'est un petit livre très pratique chez Erol, 21 jours pour sauver la planète. C'est signé de Herveline Verbeken et Marie Lefebvre. Également avec nous, Pascal Gréboval, rédacteur en chef de Kaizen. Alors Herveline, vous parliez de cette gestion budgétaire. Il y a Ibrahim justement d'Abidjan qui nous dit que lui aussi, il dresse à la fin de chaque mois, il dresse des listes de choses bien pour acheter, mais malheureusement il avoue qu'au moment de faire des achats, eh bien il peut se jeter sur des choses superflues, et il dit même que quand il a une entrée conséquente d'argent, donc il a tendance à ce moment-là à acheter des choses qui n'étaient pas prévues. Je pense être un acheteur compulsif. Marie Lefebvre, au début de votre livre, effectivement, vous permettez à chacun de savoir où il se situe pour savoir d'où on part. Il y a l'acheteur compulsif.
Oui, l'acheteur compulsif, en fait, c'est celui qui ne peut pas résister aux sirènes, qui est pris par son plaisir immédiat. Hein. On parle beaucoup de la notion d'immédiateté. Voilà, c'est-à-dire que sur le moment, quand on a un budget qui n'est pas maîtrisé, on peut se jeter effectivement sur n'importe quel achat irraisonné.
Alors, comment lutter quand ça vous prend ?
Comment lutter quand ça nous prend? Justement, dans notre livre, on a développé la méthode Bisou. En fait, pour la résumer, je dirais qu'il y a plusieurs choses à faire. Déjà, de maîtriser son budget, donc de savoir quel montant est attribué à quel poste de consommation. Ça nous donne déjà une bonne base. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, comme disait Pascal tout à l'heure, de ne pas se faire plaisir. Au contraire, le plaisir a toute sa place, mais du moment qu'il est bien encadré dans son budget. On peut aussi s'interroger sur cette notion de besoin. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est une envie furtive? À quel besoin cet achat va répondre? Voilà, ça peut être un besoin de reconnaissance. On va s'acheter une belle tenue parce qu'on pense qu'on sera plus beau, qu'on sera, on aura plus confiance en nous. Un besoin plaisir, un besoin d'être réconforté. De s'interroger toujours avant de faire le moindre achat, déjà, ça nous permet de mettre une distance. Et ce qu'on conseille également, c'est avant de faire un achat qui n'est pas prévu, de différer. De toujours se laisser un laps de temps, 2 semaines, ça nous paraît pas mal, pour justement se laisser le temps. Et souvent, on se rend compte qu'au bout des 2 semaines, l'envie est partie.
Alors, que dire aux enfants? Parce que s'il y a des acheteurs compulsifs, enfin, ils n'ont pas le portefeuille qui va avec, mais c'est bien les enfants qui sont les premiers à vous solliciter, à avoir envie de telle ou telle marque. Comment on fait avec les enfants dans cette société de consommation, Herveline?
Alors, nous, à la maison, on a arrêté la télé déjà. C'est une première chose, on a arrêté la télé, je crois, il y a 1 an et demi. Et du coup, on se rend compte que déjà, il y a déjà une source de sollicitation énorme. Maintenant, la télé, malheureusement, ils la regardent parfois à l'école, ils la regardent parfois ailleurs. Et puis, il y a des sollicitations aussi auprès des autres enfants. Maintenant, moi, j'hésite jamais, jamais, jamais à leur expliquer les choses telles qu'elles sont, avec des mots adaptés à leur âge. Mais voilà, la réalité, quoi. D'où viennent les objets, qui les fabrique, qu'est-ce qu'ils deviennent après, est-ce qu'ils sont heureux de ce qu'ils font avec cet objet, est-ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont, enfin voilà. Mes enfants, ils ont 5 et 7 ans, et comme tous les enfants, ils réclament, mais ils sont très très réceptifs en général à ce que je leur dis.
Alors inverser justement cette tendance du jetable, ça c'est vraiment au cœur de cette nouvelle vie, entre parenthèses Pascal Grébeval, cette vie en tout cas que vous prenez, que vous mettez en application aussi, au sein de Kaizen ou dans ce nouveau hors-série Comment devenir autonome. C'est vrai que l'idée, c'est vraiment de recycler, de réutiliser, de faire soi-même et de prendre du plaisir avec ça.
Oui, c'est vraiment l'idée. Et d'ailleurs, on a utilisé pas mal de produits qui justement étaient destinés à la poubelle dans ce hors-série Do It Yourself sans recette pour devenir autonome. Et l'exemple le plus frappant, c'est qu'on a fait la semaine dernière l'essai à la rédaction. Donc c'est ce qu'ils appellent toujours du japonais, je suis désolé, les éponges tamashi. Donc on prend des chaussettes, on les coupe et on fait une éponge recyclable en fait. Et ce qui a été fou, c'est qu'on a fait la vidéo la semaine dernière et il y a eu 15 000 personnes qui sont jetées sur cet article pour aller voir comment on fait une éponge tamashi, parce qu'on a tous chacun chez soi des chaussettes qui sont à jeter, et plutôt que les jeter, on peut faire une éponge. Donc c'est vraiment l'idée effectivement de ce hors-série, c'est de se dire il y a plein de choses aujourd'hui qu'on jette, mais ne les jetons pas, réutilisons-les intelligemment en fait.
Oui, vous proposez aussi de faire des dessous de plats avec des bouchons en liège, ça c'est dans le magazine. C'est vraiment toute cette inventivité, toute cette créativité pour réutiliser les objets.
Oui, alors moi de moins en moins je peux faire ça, parce que en fait j'ai de moins en moins d'objets jetables en fait dans mon quotidien, mais c'est pas grave. Mais d'ailleurs des fois mes collègues me rapportent des trucs, au cas où je pourrais en faire quelque chose.
Donc vous êtes totalement désencombré, vous?
Non, pas totalement.
Ça ressemble
non.
À quoi chez vous?
Non, pas du tout totalement désencombré. Je crois que là ça ferait beaucoup rire mon mari. Mais disons que déjà rien qu'avec ce qu'on a fait, maintenant on peine à recycler, parce que on n'a plus de contenants en plastique. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on n'a plus. Voilà.
Alors quel est le pouvoir justement du consommateur, Marie Lefebvre? Parce qu'on parle de consommateur aussi justement avec tous ces exemples de vie un peu alternative. C'est quel est le vrai pouvoir du consommateur?
Le pouvoir du consommateur est complètement énorme, et en fait tout est fait pour que le consommateur ne se rende pas compte surtout du pouvoir qu'il a. Je pense que ça part d'une règle qui est très simple, de l'offre et la demande. Il y a une offre parce qu'il y a une demande. Si le consommateur a une autre demande, c'est-à-dire de consommer durable, éthique, on pense que l'offre va s'orienter vers ça. Donc on le voit aujourd'hui, comme disait Pascal avec les histoires d'AMAP, on pense que par ces choix de consommation, consommation, le consommateur va justement orienter l'offre qu'il aura en face de lui.
Et par exemple, ça se concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui avance par exemple bien dans cette nouvelle forme de société ?
Qu'est-ce qui avance ? Bah, le nombre d'AMAP, puisqu'aujourd'hui en France, pour être concret, rester sur les AMAP, on a dépassé plus de 2000 AMAP en France. On est devenu le deuxième pays, alors ça peut-être pas concerner tous nos auditeurs, mais le deuxième pays en Europe à le manger le plus bio, avec la plus grande surface agricole en bio, même si ça reste à 5,5% de la terre agricole. Donc on voit qu'il y a des avancées. Après, il faut rester honnête et lucide. Aujourd'hui, il y a 91% de la population française qui ne consomme pas bio. Donc il faut rester lucide là-dessus. Mais on voit que ça avance. On le voit avec le film Demain. On le voit avec les livres que viennent de sortir, on le voit nous dans nos conférences, on le voit sur les salons, il y a de plus en plus de monde qui sont attentifs, curieux de cette mouvance. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est un élan qui ne s'arrêtera pas en fait. Et plus nous serons nombreux, plus l'élan sera fort.
Alors cet élan, oui.
Et je voulais juste ajouter que nous, ce qu'on constate avec Marie, c'est que les gens ont un potentiel de changement absolument incroyable et aussi incroyablement rapide. Pour peu qu'on trouve le bon canal d'expression en fait, et vraiment le 100% positif marche vraiment, enfin c'est assez incroyable quoi. Les gens que nous on accompagne, ils font leur chemin en beaucoup moins de temps que Marie ou moi l'avons fait. Par exemple.
Mais par exemple, quand je disais allons-y, on essaye de se lancer pendant un an, on essaye d'acheter les trucs superflus. Ça, vous trouvez que c'est commencé trop dur ?
Je pense qu'il faut pas visualiser une montagne en face de soi en fait. Je pense que vraiment, et bon, dans le bouquin il y a beaucoup d'astuces, mais ce qu'on invite les gens à faire, c'est de commencer là où ils ont envie de commencer. Le tout en fait, c'est de trouver le fil pour dérouler la pelote, quoi, mais c'est de trouver le bout en fait.
Mais si on veut réduire vraiment ces plus gros postes de son budget, on peut commencer par agir par où, par exemple, Marie Lefebvre?
On peut commencer par l'alimentation. Nous, c'est par exemple un sujet qu'on aborde beaucoup sur notre groupe. On constate qu'il y a des familles sur notre groupe qui divisent leur budget alimentaire par deux, ne serait-ce qu'en luttant contre le gaspillage, en faisant tout simplement une liste de menus en partant de ce qu'ils ont dans leur placard. Donc déjà, c'est ça qui sera de moins acheté. En faisant une liste de courses vraiment précise et en ne retournant pas tous les quatre matins à la boutique pour chercher un truc qui manque. Hein. Quand il y a un truc qui manque, on se débrouille sans.
Et vous dites aussi qu'il faut absolument éviter les promotions. Alors quand c'est 2, 3 pour le prix de 2, ça en fait c'est un leurre.
Absolument, c'est un leurre parce que alors mathématiquement, on est d'accord, on va avoir un produit gratuit. Sauf que concrètement, des promotions, il y en a tout le temps. Il y en a tous les mois, il y en a toutes les semaines quand on va faire nos courses. On tombera toujours sur une nouvelle promotion. Au final, notre panier moyen quand on va faire nos courses ne baisse jamais puisqu'on accumule du stock en achetant des lots en promotion, en achetant plus que ce qu'on aurait besoin. On n'a pas besoin d'avoir 3 bidons de lessive pour une session de course, mettons, d'une semaine ou de 15 jours. On n'a pas besoin de ça. Donc,
on a quand même acheté 2 yogurts.
Oui, c'est ça. On a plus dépensé.
Et on est dans cette société de gaspillage. Ça risque de se retrouver gâché aussi à la
surtout
poubelle.
Surtout que les chiffres sont parlants. 26% des courses qu'on achète finissent à la poubelle à titre individuel. Donc, ça fait quand même un tiers de ce qu'on achète qui finit à la poubelle. C'est pas rien.
Donc, on peut agir là-dessus.
Et puis, ce qui est important, on ne l'a pas encore dit, on parle beaucoup de bobos depuis tout à l'heure. Je pense que tout le monde est concerné, que ce soit les classes sociales privilégiées ou les classes sociales qui ont du mal. Un exemple très concret, le pain, moi je le fais à la maison chez moi depuis 10 ans, ça me coûte 20 centimes de faire le pain. Et ça peut aider les familles défavorisées d'avoir un bon pain de 1 kg pour 20 centimes. Et donc il n'y a pas de classe privilégiée qui doit faire des efforts. Tout le monde peut faire un petit geste et ça va aider l'ensemble de l'humanité.
Avec le développement de l'économie collaborative aussi, posséder un objet, maintenant c'est plus nécessaire d'acheter des choses, on peut aussi les partager si on a besoin d'une tondeuse ou quoi, on peut le partager, il y a tout des tas de choses qui existent maintenant en réseau.
Tout à fait, et nous on développe énormément l'entraide. Vraiment, on appuie énormément là-dessus. D'ailleurs, notre bouquin, donc on en fait la promo sur notre groupe, mais on encourage aussi les gens à se le prêter, à l'emprunter à la bibliothèque, voilà. Et tout, c'est vraiment une des bases de ce qu'on dit, en fait. On en revient en fait à ce que disait Marie tout à l'heure, c'est-à-dire se poser la question quand on a envie ou besoin d'un objet. Est-ce que mon voisin l'a ? Est-ce que mes parents l'ont ? Est-ce que je peux me le faire prêter ? Est-ce que je peux me le faire réparer ? Est-ce que quelqu'un a cette compétence à me prêter ? Et finalement, voilà, on finit par réduire...
Pour terminer, on peut dire qu'il y a vraiment cette idée de réinjecter, de remettre de l'humain là où il n'y en avait plus beaucoup. Hein.
C'est un peu... Oui, tout à fait. Et j'en profite, puisque donc c'est le dossier qu'on vient de publier, c'est que le citoyen n'est pas qu'un consommateur. Nous ne sommes pas là qu'avec une carte de crédit et une carte électorale à voter tous les 5 ans. Ça impose aussi à chacun de réfléchir à quelle société on veut faire ensemble, mais pas ensemble, pas seulement avec les Français, avec tous les auditeurs qui nous écoutent à Shanghai, à Bamako, à Conakry. Et donc la démocratie, c'est aussi réfléchir à une nouvelle citoyenneté. Et donc je pense que c'est pas seulement consommer, c'est être acteur au quotidien de sa vie.
Et donc votre livre effectivement aide, enfin en 21 jours, l'idée c'est effectivement, vous nous prenez par la main pour voir sur quoi on peut agir dans notre quotidien. En tout cas j'ai envie de vous donner ce chiffre, peut-être qu'il va aller dans votre sens. J'ai vu qu'en 2016, c'est une première en France, les grands supermarchés ont commencé à vendre moins d'alcool, moins de viande, moins de produits laitiers. Donc en gros les consommateurs, vous disiez qu'ils avaient du pouvoir tout à l'heure, ils seraient un peu plus sobres, plus végétariens et consommerait moins de produits laitiers. Donc ce pic de consommation dont on parlait au début est en train de s'inverser.
C'est une bonne nouvelle. Et puis il faut juste se rappeler, si j'ai le temps, que Gandhi a aussi fait reculer les Anglais en Inde en boycottant les produits anglais. Donc on a un vrai pouvoir politique avec sa carte bancaire.
Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous en direct. Merci pour vos conseils pour faire des économies et consommer plus durablement. J'arrête de surconsommer, donc ça sort chez Erol, 21 jours pour sauver la planète, avec Herveline Verbeken du blog Sortez de vos Conaps et Marie Lefebvre, auteur du blog La Salade à tout. Merci à nos équipes à Nantes pour vous avoir accueillis, et Pascal Grébeauval, rédacteur en chef de Kaizen, avec la collection Je passe à l'acte chez Actes Sud et le hors-série Comment devenir autonome. Merci à toute l'équipe, et demain Emmanuel Bastide revient, enfin depuis Tunis, quelle éducation aux médias pour les jeunes face aux réseaux sociaux. L'émission est enregistrée aujourd'hui même à Tunis. Merci pour votre écoute.
Présidentielle 2017.